Y a-t-il un horoscope pour les chrétiens? Ou autre question, un chrétien peut-il consulter son horoscope? Concernant l'astrologie, la Bible est assez claire. Je vous cite quelques passages. Deutéronome 4, verset 19. Ne te laisse pas entraîner à te prosterner devant le soleil, la lune ou les étoiles. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Bon, je crois que c'est assez peu pratiqué dans nos milieux. Personne qui pratique la divination. Divination, c'est deviner ce qui va arriver demain. Qui recherche les présages, qui consulte les augures ou qui s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, qui consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. C'est quand même assez fort, hein? Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder devant vous. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel, votre Dieu, car les nations que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins, mais pour vous, l'Éternel, votre Dieu, n'a rien voulu de pareil. Voilà un passage qui me paraît clore. Le problème, on peut rajouter ce que Jésus dit à ses propres disciples quand il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc non. Non, un chrétien ne doit pas consulter un horoscope. Et la Bible est claire, je ne vais pas en rajouter. Simplement rappeler qu'il y a des choses qui sont révélées et des choses qui sont cachées. C'est ce qui est dit en Deutéronome 29, où les jeunes du peuple s'interrogent en disant « Mais pourquoi est-ce que des villes comme Sodome, Gomorre ont été frappées ?» Et Moïse répond que c'est le jugement de Dieu sur le péché de ce peuple, et il ajoute que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité pour que nous les mettions en pratique. Il y a donc des choses qui sont du domaine de Dieu, et dans ces choses-là, c'est l'avenir qui est du domaine de Dieu. Parfois, dans la parole de Dieu, on voit que Dieu soulève un coin du voile pour et qu'il donne des indications sur l'avenir à des prophètes. Mais c'est Dieu qui prend l'initiative. Et puis souvent, il ne dit aux prophètes que ce qui est important pour lui. Enfin, ce qui est important pour Dieu. Par exemple, vous vous souvenez, on l'a lu avec le parcours récent il n'y a pas bien longtemps, vous vous souvenez de Joseph qui reçoit cette vision des vaches maigres et des vaches grosses, et grasses, et qui annonce au Pharaon que c'est un présage pour les années qui viennent sur les années de sécheresse et puis d'opulence d'abord et de sécheresse qu'il va y avoir. Mais assez curieusement, si vous avez remarqué, Joseph est en prison quand il reçoit ça, ce présage-là. Et Dieu ne lui dit rien, et toi Joseph, tu vas sortir de ta prison. Il ne lui dit rien sur lui, il lui annonce l'avenir de l'Égypte. C'est Dieu qui prend l'initiative. Nous ne devons donc pas nous soucier de ce qui va nous arriver demain. Par contre, nous pouvons nous rappeler les uns aux autres les promesses que Dieu nous a faites concernant notre présent et notre avenir. Et nous constituer une espèce d'horoscope, enfin, si on peut dire, on ne peut pas l'appeler comme ça. Mais je vous proposerai un peu pour nous amuser, d'en garder un peu le cadre, hein, la façon de faire, mais de prendre ce que l'Éternel, Dieu nous dit, pour notre avenir. Et vous savez ce qu'il y a dans un horoscope? Vous n'en avez jamais vu, mais vous l'avez quand même un peu regardé. Il y a des promesses, il y a aussi des avertissements. Ne faites pas ceci. Ne croisez surtout pas de chat noir, parce qu'il vous grifferait. Donc, il y a aussi des avertissements de notre Dieu. Alors, je vous avais un petit peu donné le mot d'ordre dimanche dernier, puis Pierre-Yves l'a fait suivre par mail, de rechercher un petit peu dans votre mémoire, dans votre Bible, dans vos calepins, dans ce que vous avez, les promesses que Dieu peut nous donner et qui sont précieuses à nos dieux. Alors, on va mettre tout ça ensemble et je serai à votre écoute. Alors, par contre, il faut rester sage sur les horaires. Donc, l'avantage de ce type de prédication, c'est qu'on peut l'arrêter quand on veut. Donc, je mets ma montre. Et à 2h30, on arrête. D'accord ? Oui, bien sûr. Alors, quel est le principe général ? Le principe général, c'est que si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre, vous êtes inclus, vous êtes sous le signe de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, dit Tite. Dit Paul plutôt à Tite, chapitre 2, « Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour notre Dieu. » Voilà ce qui nous attend et ce qui nous attend tous. La grâce de Dieu s'est manifestée pour nous, elle nous éduque. Elle nous amène à nous détourner de l'impiété, le mépris de Dieu, et nous pourrons mener une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour notre Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Tite 2, verset 11. Il y aura peut-être pas mal de versets cités ce matin. On ne va peut-être pas systématiquement donner toutes les références, ce sera un peu lourd, mais s'il y en a que ça intéresse, je vous l'enverrai après si vous voulez. Alors, on va commencer le jeu. Si je vous dis... normalement, ça devrait être plus lumineux que ça. Astre dominant. Alors... quel est notre astre dominant ? Non, vous êtes quoi ? La brillante étoile du matin, oui. Ça marche quand ça veut, ce truc-là.
J'étais en train de modifier.
Ah ! D'accord. Bon, la brillante étoile du matin, c'est un nom pour Jésus-Christ, bien sûr, hein. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et l'étoile du matin, qui est-ce ? C'est dans l'Apocalypse, Jésus dit, chapitre 22, « Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » C'est lui notre sauveur, c'est lui notre astre dominant. C'est lui qui nous éclaire de sa lumière et c'est lui qui nous permet et qui nous permettra de vivre. Alors, chapitre de l'amour. Commençons par les promesses. Après, on verra un peu les recommandations. Commençons par les promesses. Alors, je vous écoute. Tu peux nous le lire ? Oui, vas-y. Voilà, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste. Voilà une belle promesse. On verra, ce texte, je l'avais aussi prévu dans le chapitre d'après, les recommandations. Si nous nous aimons les uns les autres. Mais c'est aussi une promesse, c'est vrai. C'est vrai ? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà aussi une promesse. Eh oui ! Et oui, on peut déjà le marquer celui-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ne croit en lui ne périsse pas. C'est bien une promesse, ça, mais qu'il ait la vie éternelle. Lily ? Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Oui, Marc ? Tu peux nous expliquer un peu plus ?
Je vais vous le dire si vous voulez. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Oui.
Et ensuite, verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Dieu est amour.
Dieu est amour.
Une promesse.
Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, voilà une belle promesse. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. André.
Hébreux, citant Deutéronome, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai.
Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Je répète à chaque fois pour ceux qui ont des écouteurs dans les oreilles. Hein. Voilà. Donc, Hébreux. 1 Corinthiens 13, c'est plus une recommandation peut-être. Alors, Romains 5, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 8, Pierre-Yves l'a cité, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà des promesses. Alors, avec les promesses, il y a des recommandations. Alors, nous en avons déjà vu une avec Chantal. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Mais voilà, si. C'est une recommandation. Est-ce que vous... Annie ?
1 Jean, chapitre 4, verset 21, nous avons de Dieu ce commandement que celui qui aime, aime son frère. Que celui qui aime Dieu, aime son frère.
Voilà. Celui qui aime Dieu, aime son frère, doit aimer son frère. Oui ?
Éphésiens 5, 25.
Oui ? Eh oui, et oui, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Ça, c'est une recommandation précieuse, n'est-ce pas, mesdames ? Dans Tite, au chapitre 2, verset 4, il est recommandé, Paul fixe comme mission à Tite d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Vous voyez que c'est bien aussi, hein ? C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Alors, personne ne m'a cité quand même. Oui ? Le commandement reçu du Père. Mais en parlant de commandement, quel est le plus grand de tous les commandements ? Ça devrait être plus visible normalement, mais tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le choix des couleurs n'est pas très heureux, hein, je suis désolé, mais je ferai mieux la prochaine fois. Voilà des recommandations, des commandements qui feront bien dans notre horoscope sur l'amour. On a vu mari, aimez votre épouse, et épouse, aimez votre mari. Et puis, on a vu aussi, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose concernant les voyages? Voilà, psaume 121, verset 8, c'est ça? Ah bon? C'est peut-être moi qui ai mal... Bon, donc, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, il veillera sur toi depuis le début jusqu'à la fin. Alors, d'autres choses sur les voyages? Voilà, tu parleras des commandements du Seigneur chez toi dans ta maison, mais aussi quand tu marcheras sur la route, quand tu seras en voyage. Et en parlant de voyage, vous êtes étrangers et voyageurs. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Nous sommes étrangers et voyageurs. C'est pas... Si nous sommes un peu inconfortables sur cette terre, si nous nous y sentons pas toujours très bien chez nous, c'est pas un accident. Effectivement, c'est notre statut. Nous sommes en voyage, en partance vers une autre réalité, vers une autre citoyenneté. D'autres choses ? Oui ? Voilà, allez, voilà, c'est un voyage, hein. Allez. Et puis, il y a d'autres voyages qui nous sont promis. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, dit Jésus. Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Voilà, un beau voyage. Pour que vous soyez, vous aussi, toujours avec moi. Clémence ? L'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué, c'est ça ? Et puis, pour préciser un petit peu ce voyage, tout à l'heure, on a chanté hein, « Tu étends mes ailes pour toucher les cieux ». Il me laisse toujours un peu perplexe cette parole de chanson. Hein. Mais quand même, le Seigneur nous dit, à Thessaloniciens verset 4, nous qui serons vivants au moment du retour de Jésus, nous serons enlevés avec eux c'est avec les ressuscités, au travers des nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà un voyage qui sera intéressant à faire quand même. Hein? Ça me fait penser, c'est un peu irrévérencieux, mais pas tout à fait quand même. Si vous avez vu le dessin animé Peter Pan, hein? Ils partent en volant comme ça et ils passent à travers les nuages. Voilà. Nous serons enlevés avec le Seigneur. On se fait ces petites images. Hein? Allez! Comme tout bon toubib, je vais vous parler de la santé. Mais vous allez m'en parler de la santé. Alors, quelles sont les promesses ou les recommandations que le Seigneur nous fait pour notre santé? Oui, Marc?
Alors, 1 Timothée 5, 23, celle de boire uniquement de l'eau. Par contre, ton estomac et tes fréquentes indispositions.
D'accord. C'est une recommandation de Paul à Timothée. C'est peut-être pas forcément une recommandation pour tout le monde.
Si.
Bon. Cesse de boire uniquement de l'eau pour ton estomac. D'accord. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire aux gens, cessez de boire uniquement du vin. Le prendre soin de son corps parce que c'est le temple du Seigneur. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Rechercher la sagesse, ça sera un rafraîchissement pour nos os. Oui, tout à fait. Oui. Voilà un très beau passage. Oui ? Voilà, si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se fortifie. C'est 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, je pense, quelque chose comme ça. Oui ? Crée vers l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Voilà une ordonnance que je devrais faire plus souvent. Hein? Annie, tu avais un... Un cœur joyeux est un bon remède. Peut-être qu'il serait intéressant, personne n'a joué les secrétaires, là, c'est dommage. Il aurait peut-être été intéressant de noter chacune de ces références. Donc, les personnes qui ont donné des références, peut-être on mettra une feuille là-bas, si vous pouvez les inscrire, et puis on les colligera, parce que c'est quand même intéressant, je trouve, toutes ces promesses. Voilà, je les mettrai dans la salle d'attente, voilà. Alors, je vous avais trouvé ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme et le corps. Oui ? Puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça, on l'aime moins celui-là, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est effectivement une recommandation du Seigneur. Et pourquoi, par quelle magie, restons dans l'horoscope, pourrions-nous être guéris ? Ésaïe 53. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Il est question du Christ en croix, bien sûr, dans ce passage prophétique. C'est nos souffrances qu'il a pris sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Psaume 103, c'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Et puis, tournons les yeux vers l'avenir. Apocalypse 21, verset 4, il est question de la Nouvelle Jérusalem, des temps futurs. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors on va voir ce que on peut dire sur le travail, et puis on s'arrêtera, hein, si vous êtes, on aura assez travaillé, si vous êtes d'accord. Le travail, est-ce que vous avez trouvé des choses sur le travail? Alors, Josué 1, dit Annie. Voilà. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, je résume, hein, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est le livre de Josué, le début du livre de Josué. Dans la même optique, j'ai le conseil que David a donné à son fils Salomon. On trouve ça dans 1 Chronique 28. Il lui dit: sois ferme et courageux, agis sans crainte et sans tremblement, car le Seigneur Dieu est avec toi, il ne te laissera pas sans force et sans soutien avant que tu aies achevé tout le travail à accomplir pour la maison du Seigneur. Bien sûr, c'est un cas particulier, c'est Salomon qui devait construire la maison du Seigneur. Mais nous sommes tous appelés à construire la maison de Dieu. Nous sommes tous appelés à construire l'Église. Proverbe 31, la femme de valeur, oui, la femme de valeur, elle n'est pas allongée dans un faux... Oh, pardon. La femme de valeur, elle travaille... Oui. Thessaloniciens
2, chapitre 3, verset 12.
Oui.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix, et gagnez vous-même votre pain.
Voilà, travaillez dans la paix, gagnez vous-même votre pain. Et on a le... Quelques versets plus loin, on a le contraire. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Hein? 1 Thessaloniciens 3, 10. Hein?
La plus de la référence aussi, c'est un peu plus sérénité quand on n'a pas de travail. C'est ne pas s'inquiéter des oiseaux du ciel sont nourris.
Ah oui.
Et qu'ils disent des chants pour habiller Dieu.
Matthieu 5 ou 6, je pense. Hein? Oui. Alors, je vous avais proposé celui-ci. Travaillez, Jean 6, verset 27, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. C'est vrai que dans notre agitation de chaque jour, il y a peut-être beaucoup de choses qui, finalement, n'auront pas beaucoup de lendemain. Et puis, quand parfois nous pouvons dire une parole ou parler du Seigneur à quelqu'un, peut-être que là, on travaille pour des choses qui ont une valeur éternelle. Mais est-ce qu'on leur laisse assez de temps? On a vu donc que si quelqu'un ne veut pas travailler, ne veut pas, hein, qu'il ne mange pas non plus. Et puis, je vous ai proposé aussi celui-ci. Mettez votre salut en action. Dans les anciennes versions, il y avait « travailler à votre salut ». Mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, dit Paul, mais bien plus alors maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Nous sommes appelés à travailler, et à travailler parce que nous sommes sauvés, et que ce salut soit pour nous une base de départ, si on peut dire, un dynamisme, une énergie pour faire les choses que Dieu nous demande. Il nous le demande, il met en nous la volonté de le faire et la possibilité. Allez, un petit encore. Les relations. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Ben voilà une belle recommandation.
De considérer les autres plus importants que soi-même.
Oui. Oui. Oui, alors Chantal, si tu vois plus ton mari demain, c'est qu'il a pris cette recommandation au sérieux. Il a quitté maison, sa fille. Alors, psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Soyons attentifs à nos relations. Elles peuvent nous empoisonner l'existence et dans un sens tout à fait direct. Quand Annie a vu le texte après, elle a dit « c'est pas possible ». C'est un proverbe, le verset... Alors, bon, c'est juste un résumé. Alors, le résumé, effectivement, est un peu bizarre. Proverbe 27, versets 5 et 6. « Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. » On pourra quand même s'embrasser à la fin du culte après, hein. Oui, Dieu lui donnera un mari et une famille. Dieu est un ami pour les hommes droits, mais il a en horreur les hommes pervers. Dans les relations, nous pouvons avoir Dieu comme relation, avoir Dieu pour ami. C'est pas merveilleux, ça? C'est pas un bel horoscope que ça, avoir Dieu pour ami. Et puis, je suis avec vous tous les jours, dit Jésus. C'est pas une belle relation, ça? Au moment où il s'en va, il dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et encore une relation, et on s'arrêtera là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ça, c'est une relation très proche, de proximité. C'est une promesse. Et nous voulons remercier Dieu pour ça. Je vous propose de prier et de remercier Dieu pour toutes ces promesses. Et on va s'arrêter là, ça ne serait pas raisonnable. Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons chanté, dit, exprimé, tu es le Créateur, tu es celui qui a fait l'univers entier, qui aurait très bien pu ensuite se désintéresser de nous. Mais dans tous les textes que nous avons cités, que nous avons lus, tu nous montres combien tu te soucies de notre quotidien, combien tu te soucies de nous rendre heureux, combien tu te soucies de ce que nous pouvons ressentir, exprimer, de ce que nous pouvons, de la façon dont nous pouvons avancer et des conseils que tu nous donnes. Et nous voyons là ton amour, nous voyons là ta bienveillance, ta sollicitude, celle d'un père qui veut éduquer ses enfants et qui leur donne de bons conseils, qui leur donne aussi des avertissements, voire même des interdictions, mais aussi qui leur répète son amour inlassablement. Et Seigneur, nous savons que ce monde n'est pas parfait, loin de là, au contraire, mais que nous serons un jour accueillis dans ton monde parfait, dans le monde que tu nous prépares, dans l'habitation que Jésus nous prépare, et qui sera encore une autre fois une manifestation de ton amour, parce que tu nous l'auras préparé de la façon la meilleure. En attendant, pour le présent et pour l'avenir, nous te faisons confiance, et nous voulons vraiment nous confier en toi et ne nous, pas nous inquiéter, mais te faire te tenir ta main, ne pas la lâcher pour être conduit chaque jour. Amen.